Tabasser à mort par amour, paraît que c'est courant de nos jours. Le métier d'épouse n'est pas sûr quand on est la femme d'un vrai dur.
Parce que je suis une femme.
Mais celle qu'il appelle sa traînée d'infidélité soupçonnée.
Parce que je suis un homme, je ne pourrai jamais comprendre ce que c'est que d'être violé, martyrisé, battu, harcelé, sifflé dans la rue. Mais parce que je suis un homme, je dois écouter la souffrance des femmes pour que demain, il n'y ait plus rien à expliquer, plus rien à comprendre.
Frappé à mort par un sale con, que je dédie cette chanson.
Nathalie avait tout pour être heureuse. Et puis un jour, au moment où elle s'y attendait le moins, les premiers coups, suivis très rapidement d'autres coups, la violence au quotidien qui s'installe. Je vous propose d'écouter son témoignage.
Votre mari présent, chère madame, prétend que vous l'avez bien cherché. Pourquoi faire alors tout un drame? Vous n'êtes pas tellement amoché.
Chapitre 1. Une jeunesse heureuse.
Qui jusqu'à présent se sont tus.
Nathalie, vous avez près de 50 ans, hein, bientôt 50 ans. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur la petite Nathalie? Qui était la Nathalie jeune, beaucoup plus jeune que ça aujourd'hui?
Alors, j'étais une enfant intrépide, très souriante. J'aimais beaucoup taquiner ma famille et tout ce qu'il y avait autour. J'étais quelqu'un de très joyeux et j'aimais beaucoup la vie. J'avais une structure familiale construite, unie, et les ambiances étaient très familiales. Donc, je dirais que j'ai eu une éducation, alors stricte, à côté de ça, parce que j'avais un papa qui était militaire, mais où il y avait une vraie joie de vivre à la maison, et j'ai deux sœurs, donc voilà, il y avait un peu d'ambiance. Et une maison pleine de vie, où il y avait souvent du monde, mes parents recevaient énormément, j'avais une maman qui était très tournée vers les autres, et je dirais une Nathalie pleine de vie, ouais.
C'était une famille, on l'a compris, assez vivante, plusieurs enfants.
Oui.
Est-ce qu'il y avait une vraie proximité entre les différents membres de la famille?
Alors, mon papa étant militaire, nous étions éloignés des départements de notre famille d'origine. Donc, on a vécu tous les cinq avec mon papa, ma maman et mes deux sœurs, souvent, parce qu'on déménageait à des rythmes assez réguliers, entre 3 et 5 ans. Mais à chaque période de vacances, on remontait dans ma famille, dans le nord, puisque je suis originaire du nord. Et là, c'était les grandes tablées, les cousins, les cousines, les oncles, les tantes. Donc voilà, il y avait vraiment une unité familiale malgré la distance, quoi. Et j'ai des souvenirs plein la tête de tous ces repas et de tous ces moments en famille. La famille était très importante, quoi.
Comment ça se passait à l'école?
J'avais souvent du scotch sur la bouche. J'étais très bavarde. Donc voilà. Alors très curieuse, très bavarde. J'avais des facilités pour apprendre, mais je dirais que j'étais souvent sous mes acquis, ce qui ma maman, ça l'embêtait un peu. Elle aurait voulu que j'en fasse un peu plus, quoi. Donc voilà.
Donc on l'a compris, hein, une enfance heureuse,
ouais, vraiment.
Entourée.
Ouais.
Le passage à l'adolescence. Qu'est-ce que vous retenez?
Pareil, une très bonne période. Bon, un peu compliquée avec ma maman parce que, voilà, on rentre dans une période où on s'oppose un peu à tout, on revendique tout. Mais à côté de ça, avec beaucoup de rire, beaucoup de joie, beaucoup d'amis autour de moi. Et encore une fois, une famille derrière, parce que j'avais une maman qui ouvrait facilement sa porte. Donc, si on venait avec 3-4 amis, tout le monde restait à manger à table. Alors, c'était des repas simples, mais il y avait toujours beaucoup de convivialité, quoi. Beaucoup de monde autour de la table et beaucoup de convivialité et de rire et de partage. Donc, l'adolescence, pareil, très bien. Et puis après, c'est la découverte des garçons, ce genre de choses, quoi.
des études supérieures, pas du tout. Comment vous voyez le futur ? À l'époque, comment vous envisagiez le futur ?
Alors, je ne savais pas vraiment où aller parce que je suis quelqu'un de très curieux et très passionné, mais par plein de choses. Donc, je ne savais pas vraiment quelle voie choisir. Alors, les études supérieures, oui, ça s'imposait parce que j'avais des facilités. Après, vers quel secteur me diriger ? J'ai beaucoup tatillonné dans ma vie avant de trouver ma voie, hein, vraiment. Hein, donc voilà. Donc oui, j'ai fait des études sup, mais après ça n'a pas. J'ai exploré certains métiers. Ça n'a jamais vraiment répondu. Peut-être à mon esprit créatif. Et là, ce que je fais depuis 10 ans maintenant, un peu plus de 10 ans, là me correspond vraiment davantage, quoi. Je me suis cherchée longtemps.
L'adolescence, vous le disiez, hein, c'est la première rencontre avec les garçons. Mmh. Avant de savoir comment se sont passées ces rencontres ou cette rencontre, est-ce que vous vous rappelez quelle image vous aviez des garçons ? Quels étaient vos repères en termes de garçons ?
Alors le repère, évidemment le papa. Je pense que. Alors je peux pas parler pour les autres femmes, mais je crois qu'on identifie toujours. Peut-être le futur homme de sa vie en fonction de son papa. Alors, où on recherche la copie, où on s'en éloigne complètement dans l'opposé. Moi, j'avais un papa très autoritaire, hein. Donc aimant, mais très autoritaire. Alors, je sais pas si, par contre, à l'époque, au niveau de l'adolescence, je crois que non, voilà, là, on a plus le côté fleur bleue, c'est-à-dire on rencontre un garçon, il nous plaît déjà physiquement, après, bon, voilà, on partage des sorties, des choses comme ça, ouais. Et puis on se projette pas plus, voilà.
Il
n'y
avait
dans
pas des chanteurs, quel était votre idéal à l'époque ? Est-ce que vous vous rappeliez ?
Oh oui !
C'était qui ?
Ça me remonte loin, mais ouais. À l'époque, il y avait les séries à la télévision, il y avait Deux flics à Miami, et j'aimais beaucoup Don Johnson en termes d'acteur. Après, en chanteur, bon, c'était pas mal. Bah, moi, je suis née en 73, hein, donc c'était les années 80. Donc, ouais, il y avait George Michael, des choses comme ça. Ouais, des personnes comme ça qui. Ouais, c'est vraiment, on est axé sur un physique, hein, je crois, à cet âge-là. On cherche pas plus loin, quoi. Donc, ça représentait un peu les beaux gosses de l'époque, quoi. Donc, voilà. Mais c'est vrai que, bon, moi, j'ai eu une adolescence, voilà, j'ai pas mal flirté, mais sans vraiment me projeter sur un avenir, quoi.
À la maison, vous le disiez, votre père était dur, oui. Mais dans la vie familiale, est-ce que par exemple il était affectueux ou il montrait non. de l'affection envers sa femme, envers ses filles, ou alors est-ce qu'il était la figure paternelle autoritaire
figure paternelle autoritaire alors mes deux parents, hein, pour le coup, n'ont pas eu une éducation où on montrait son amour de par la tendresse, donc les bisous, les câlins, on n'a pas connu, hein. C'était quelque chose qui était complètement exclu du schéma. Par contre, on savait que nos parents nous aimaient, ils nous montraient d'une façon différente, on partageait énormément avec eux, tant dans les temps de parole, sur des choses légères ou plus compliquées. On a abordé tous les passages de vie, justement, vous voyez, l'adolescence, la sexualité, tout ça. Moi, c'est quelque chose où j'ai eu des longues discussions avec ma maman, par exemple. Bon, pour mon papa, 3 filles, c'était compliqué de voir ses filles qui commençaient un peu à aller voir les garçons. Donc, il se positionnait en force en nous expliquant bien aussi quel chemin on devait prendre par rapport à ça, hein, parce que voilà, il fallait que ces filles gardent leur honneur et fassent les choses dans le respect des règles. Moi, à l'époque, il m'a autorisé à sortir, mais il m'amenait, il venait me rechercher, hein. Il était hors de question que je monte avec qui que ce soit en voiture. Donc voilà. Mais en termes de tendresse, non, aucune. Hein.
Vous dites que vous avez évoqué, hein, un certain nombre de sujets avec votre maman. Mmh. Concrètement, quand la porte se ferme, quand on va, vous l'avez dit, hein, quand on va flirter avec un garçon, est-ce qu'on y pense encore ?
Ah oui.
Comment se projette une jeune fille lors de ces rendez-vous ? Est-ce que
Vous voyez, par exemple, au niveau de la sexualité, oui. Je sais que les choses ont largement évolué entre mon époque de l'adolescence et aujourd'hui, mais vous voyez, quand un premier garçon garçon tente quelque chose au niveau sexuel, à moi tout de suite, mon éducation s'est mise tout de suite devant mes yeux et il est hors de question de coucher avec un garçon. Fallait l'âge raisonnable pour le faire et toute cette éducation, ouais, là, elle fait face tout de suite, hein, enfin, en tout cas pour moi.
Hein. Mais alors, je vais faire mon garçon. Hein.
Oui.
Je vais faire mon garçon parce que forcément, peut-être que les garçons... Quand il y a ces fameux rendez-vous, ces premiers rendez-vous, n'attendent peut-être pas la même chose que ces jeunes filles. Vous attendez quoi ?
Oh, moi, je crois qu'on attend. On est baigné là-dedans, petite. Hein. Moi, je le dis souvent, même encore aujourd'hui, on a trop lu de contes de fées quand on était petite et d'histoires de prince charmant. Je crois que c'est ça, on attend le prince charmant à cet âge-là. On a envie
c'est quoi un prince charmant ?
Bah, on a envie d'être ébloui. Quelqu'un qui soit attentionné, qui soit romantique, qui nous fasse peut-être... qui nous donne peut-être la sensation qu'on est unique, peut-être. Mmh. C'est ça qu'on recherche, hein, je crois, à cette époque-là. Même d'accord. Après, hein, du reste. Hein. Je crois qu'on, même avec les années... Alors, bon, on devient plus terre à terre sur plein de choses. Hein. Enfin, voilà, on n'attend plus le prince charmant sur son cheval blanc. Mais on attend quelqu'un qui nous respecte, vraiment. Quelqu'un qui nous comprenne, quelqu'un qui soit attentif. Et ouais, surtout le respect, quoi.
Ça veut dire que vous, quand vous allez à ces rendez-vous, il n'est pas question de sexe ?
Non, à cette époque-là, à l'adolescence, sûrement pas, non. Et pourtant, plusieurs garçons ont essayé, hein, je vous assure.
Oui, c'est
hein.
Ce que j'allais vous demander. Est-ce que vous aviez la sensation que les garçons ne venaient pas chercher tout à fait la même chose ?
Bien. Au fur et à mesure de mes petites histoires de l'époque, hein, alors je tiens à préciser que j'ai rencontré mon premier mari, j'avais 17 ans, donc, et je me suis mariée à 21 ans, donc vous voyez, j'ai pas eu non plus une grande expérience de vie, mais sur les garçons que j'ai pu côtoyer, je dirais que déjà à l'époque, on sent les garçons où il y a du sentiment et les garçons qui ne recherchent que du sexe. On fait tout de suite, en tout cas moi j'ai fait vite les éliminations par sensation dans ce qu'ils peuvent nous transmettre à ce moment-là. Le garçon qui veut une histoire, bon, on prend le temps. Le garçon qui veut du sexe, c'est non.
À cette époque-là, c'était à cette époque-là de votre vie,
oui.
À cette époque-là de l'histoire, ça n'a jamais été un problème de maintenir un garçon à distance.
À cette époque-là, non. Non, aucun. Ils écoutaient la parole de... Ouais, vraiment, enfin... La parole était entendue, quoi. Il n'y avait pas de résistance. Ils essayaient pas d'aller au-delà. En tout cas, moi, dans les rencontres que j'ai faites.
Chapitre 2. L'amour. Alors, Nathalie, cette jeunesse s'est bien passée ? Une vie familiale heureuse, la découverte des aventures, quelques aventures, quelques flirts, comme vous dites si bien. Et puis un jour, il y en a un qui est différent. Qu'est-ce qui s'est passé avec celui-là ? Qu'est-ce qui a fait que déjà, il a fait la différence par rapport aux autres ?
Alors, il y a eu plusieurs personnes différentes.
Ah.
Moi, j'ai eu une grande histoire d'amour à 16 ans et lui a vraiment fait la différence. Et on a vécu des tas de belles choses. Et ça restera toujours un moment, je crois, très important dans ma vie. Parce que peut-être, sans doute, le premier vrai grand amour, quoi. Mais chemin faisant, hein, nous étions jeunes à l'époque, et puis lui, ça lui a fait peur, et au bout d'un moment, bon, il a pris la décision qu'il fallait rompre, parce que, de son côté à lui, ses parents l'encourageaient à faire une vie, à faire une jeunesse, à faire sa vie d'homme, hein, avant de se poser, et il a pris cette décision-là. Alors, j'ai eu beaucoup de mal, hein, mais bon, après, il faut faire son chemin, puis il faut avancer.
Voilà.
Alors, je l'ai fait avec beaucoup de mal, et je vous avoue qu'à l'époque, je suis quelqu'un de très cérébral, qui réfléchit énormément, et pour le coup, sur cette seule histoire, j'ai été un peu fataliste en me disant que plus jamais je revivrai un amour comme ça. Hein. Et donc, suite à ça, je rencontre mon ex-mari.
Alors, avant l'ancien, l'ex-mari, à 16 ans, pour vous, c'était trouvé.
Ah ouais.
C'était celui-là.
Ouais.
Qu'est-ce qu'on imagine à ce moment-là ? Parce que 16 ans, c'est jeune.
On se projette. On se projette
dans quoi? On se projette dans les enfants, dans une maison, quoi?
Non, pas forcément les enfants, mais en tout cas sur une aventure à deux. On dessine, on finit de peaufiner le cursus scolaire, ce qu'on va faire comme boulot, et toutes les aventures qu'on a envie de vivre à deux, parce que c'est tellement beau. Moi, il m'a fait vivre des trucs. Alors, vous saviez, parce qu'au début, c'était un ami d'un ami. Physiquement, ça le faisait pas du tout. Quand j'ai vu qu'il commençait à s'intéresser à moi, j'ai dit non, c'est pas possible. Et en fait, il a tellement mis le paquet qu'il a réussi à me séduire. Mais, vous voyez, là, on va revenir à ce qu'on disait avant. Voilà, quand on attend son prince charmant à cette époque-là, sur son cheval blanc, moi, c'est vraiment ça qui m'a donné, quoi. Vous voyez, on était dans le même lycée, on avait le même prof de philo, il me laissait des longues lettres d'amour sur le bureau que j'allais prendre après sa suite, parce qu'on faisait pas partie de la même classe, et je savais que j'avais ma lettre d'amour sur ma table écrite au crayon à papier qu'il fallait que je gomme après pour pas que les profs les voient. Enfin voilà, il a été romantique, il a été à l'écoute, puis on a découvert la sexualité à deux, on a découvert pas mal de choses à deux. Donc je crois que ouais, la première vraie histoire, c'est ça qui marque.
La famille le connaissait?
Oui, il y a eu une présentation au niveau des deux familles. Et ça s'est très bien passé. Bon, mon papa, il m'a dit, je te préviens, il n'y en aura pas 10 qui vont rentrer à la maison. Hein. Fais bien ton choix. Donc voilà. Et puis bon, quand ça s'est terminé, je crois que, ouais, que ce soit ses parents ou les miens, ils étaient un peu désolés quand même. Parce que bon, après, on prend des habitudes déjà. Et pourtant, on est jeunes. Hein, donc, on se rendait dans les deux familles. Hein, donc voilà. Voilà.
C'est quelque chose qui a compté. En tout cas, ça se voit, ça s'entend dans vos paroles et ça se voit dans vos yeux. Et puis, il y en a eu un autre.
Après, il y a la rencontre avec mon ex-mari. Donc, ouais.
Comment ça se passe? Quelles sont les circonstances dans lesquelles vous le rencontrez? Déjà, est-ce que c'est longtemps après cette déception?
Alors, mais on s'est rencontrés, très rapidement après mon histoire. Bon, il est venu vers moi, mais alors là, moi, j'étais complètement fermée. Il était hors de question que je... Vous voyez, j'étais peut-être dans le travail de deuil de ma relation. Oui. Et on s'est revus 6 mois plus tard, donc il est revenu. Et puis, ça s'est fait comme ça. Alors, j'ai pas eu de coup de foudre, hein, là. Et c'est sans doute ce qui a fait ce que j'ai divorcé après. Hein. J'ai pas eu de coup de foudre. Bon, c'était un gentil garçon, un beau garçon. C'était quelqu'un de travailleur qui avait mes valeurs et mon éducation. Donc ça nous a rejoint, mais je crois que ce petit manque de passion a fait que je me suis très vite ennuyée dans mon mariage et je me suis très vite lassée. Et j'ai un jour, vous voyez, je me suis levée, je me suis dit j'ai l'impression d'être comme dans un poisson dans un bocal, je fais le tour mais je vois pas de porte de sortie. Ça finissait par m'éteindre, cette relation. Et moi, je suis quelqu'un de très passionné, très créatif, très vivante. Et c'était quelqu'un beaucoup plus posé, vraiment à l'opposé de moi. Et on avait tout pour s'entendre, mais il manquait l'essentiel, je crois.
C'était quelqu'un de gentil?
Ouais. Respectueux. Alors, vous voyez, je suis restée 20 ans quand même avec lui. Il y a eu des sujets de désaccord, ce genre de choses, mais toujours rester dans le respect. Il y a toujours eu de l'écoute, il y a toujours eu la volonté d'essayer quand même, hein, l'un et l'autre, parce qu'il y a des périodes, hein, dans le mariage où parfois c'est compliqué, mais en tout cas de faire des concessions, d'essayer d'avancer et de pardonner parfois, parce qu'il y a des grosses erreurs, hein, dans les mariages. Donc on a fait tout ce chemin là, hein, quand même, hein.
C'est
donc,
quoi les grosses erreurs dans le mariage?
D'aller voir ailleurs. Lui, il est allé voir ailleurs une fois et moi une fois, et malgré ça, on a réussi à se pardonner, à comprendre pourquoi on en était arrivé là et à avancer. Alors même si c'est pas une union qui m'a épanouie, par contre ça m'a appris énormément de choses, à travailler sur moi, à faire preuve de concession, d'écoute. Enfin, le mariage, c'est ça aussi, ça apporte.
Comment on peut vivre 20 ans avec quelqu'un lorsqu'on n'est pas épanoui?
On compense.
C'est-à-dire?
Par une vie sociale très riche. Par de la créativité, par des sorties, par la famille, par ses enfants. On est toujours en quête de quelque chose. En tout cas, moi, je suis comme ça, je fonctionne comme ça. J'ai beaucoup compensé. Mon ex-mari en a été très malheureux.
Vous en parliez ensemble ?
Oui.
De cette fadeur, hein. On a l'impression que c'est fade.
Alors pour lui, c'était très riche. Pour lui, c'était ça. Pour lui, c'était très riche, puisque je suis une femme dynamique, vivante, aimante, qui aime être entourée. Donc pour lui, qui était plus casanier, ça lui apportait énormément de choses. La seule chose qu'il avait du mal à comprendre, c'est que moi, à l'instar, sa personnalité m'éteignait. Donc, il a fait des efforts, mais on ne change pas sa façon d'être, je crois, et ce qu'on est profondément. Et quand on s'est séparés et que j'ai annoncé qu'on allait divorcer, j'ai essayé de lui faire comprendre que même lui, s'il regardait bien la situation, il n'était pas heureux, parce que je ne répondais pas à ses attentes. Il aurait voulu que je me consacre qu'à lui, et moi, j'étais à 10 000 de ça, vu que ça ne m'épanouissait pas, j'allais chercher partout ailleurs, sauf dans mon couple, c'est de quoi vivre, quoi. Donc même lui n'était pas heureux. Il en a convenu, hein, sur notre séparation. Qu'effectivement, enfin, pour moi en tout cas, c'était un choix judicieux, la séparation. C'était lui laisser la possibilité de refaire sa vie avec quelqu'un vraiment qui lui correspondrait et qui lui apporterait ce qu'il attendait. Et moi, enfin, d'exploser et de vivre, quoi.
Finalement, une histoire longue, une séparation somme toute assez traditionnelle, assez banale, je dirais, hein, comme plein d'histoires, et puis une nouvelle rencontre.
Alors bon, il y a eu une histoire entre les deux, mais oui, je rencontre le père de ma fille. Donc, via un site de rencontre, c'était tout nouveau pour moi, hein. Je sortais de 20 ans de relation, on parle de ces sites de rencontre, et donc je fais sa connaissance, et très vite ça matche en fait.
Qu'est-ce qui matche ?
Mais alors, je suis quelqu'un de très curieux, très passionné, et c'est quelqu'un de très cultivé. Alors là, déjà, il marque tous les points, parce qu'il remplit ma curiosité. Tous les domaines de connaissances qu'il a répondent à cette soif de curiosité. Il est passionné d'histoire, il est passionné de géographie, de tourisme, de voyage. Alors, tout c'est vraiment déjà, ça me correspond en grande majorité, parce que j'aime les voyages, j'aime les découvertes. On s'est beaucoup rejoints sur les découvertes des plus beaux villages de France, sur le patrimoine bâti, culturel. Donc déjà, il y a ça. C'est quelqu'un qui me fait rire aussi. Vous voyez, il avait une petite phrase, il disait souvent « femme qui rit à moitié dans son lit ». Mais c'est vrai. Mais c'est vrai. Donc voilà. Et pas d'ennui du tout, pour le coup. C'est palpitant parce que chaque conversation, chaque rencontre est nourrie et alimentée et de part et d'autre. Parce que moi, j'ai des connaissances sur certains domaines, lui, il en a sur d'autres. Et c'est une histoire de vase communicant. Et non, là, vraiment, ouais, il y a un coup de foudre, là.
C'est longtemps après la séparation ?
De mon divorce,
oui.
2 ans après. 2 ans après, oui.
Alors, quand vous dites c'est rapide, c'est le coup de foudre, ça veut dire quoi ? Ça veut dire au début, on vit chacun de son côté, puis on s'installe très rapidement ?
Donc, lui était d'ici, hein, de la Haute-Vienne, et moi, j'habitais dans le Berry. Donc, sur les premiers contacts.
Vous l'avez rencontré ? Ah oui, sur un site, hein, c'est ça.
Sur un site de rencontre. Donc, les premières conversations nous amènent vite à des longues heures de conversation, à des longues soirées de conversation, voire à des nuits de conversation. Et puis, très vite, il veut me rencontrer. Là, moi, je suis plus prudente, hein. Je marque un temps d'arrêt, je fais, voilà, ça va un peu trop vite. Donc, moi, je le fais patienter quand même, hein. Donc, il s'est passé 2 mois. Voilà. Et après, on se rencontre. Donc, décision est prise de se rencontrer. Et puis ça va vite et pas vite, c'est-à-dire que moi j'ai mes enfants et par contre dans ma tête de maman il est hors de question que je présente quelqu'un à mes enfants tant que je sais pas où je vais. Donc on se voit un rythme de tous les 15 jours quand mes enfants vont chez leur papa et on partage un week-end sur deux donc ensemble et voilà, et ça continue sur la même lancée. C'est-à-dire que les partages, fait découvrir le Limousin, voilà, la Haute-Vienne et tout. Moi, je connaissais pas du tout ce département. Et puis, on partage énormément de moments ensemble, que ce soit culturel, enfin, voilà, au niveau du cinéma, au niveau de plein de choses, au niveau historique, comme il sait que j'aime ça, il me fait découvrir, ouais, pas mal de choses dans la région.
Quelqu'un de cultivé, quelqu'un d'intelligent, visiblement, quelqu'un de drôle, quelqu'un de doux, quelqu'un de plutôt viril, enfin viril au sens
alors viril, macho,
masculin, macho.
Viril, macho, qui s'affirme vraiment comme un homme. Il me fait part de son passé, et c'est quelqu'un qui a eu énormément d'expérience avec les femmes, donc voilà, il a vécu avec pas mal de femmes, et à côté, il a eu énormément d'histoires. Alors ça, au début, ça me panique, parce que moi, évidemment, mariée pendant 20 ans, mon expérience est limitée. Donc ça me panique un peu, mais très vite, parce que ça aussi, ça fait partie du truc, il y a une très bonne entente sexuelle, il est très tendre avec moi, donc, et voyez, moi, pendant les 20 ans de mariage, alors c'est je sais pas, là, si on retranscrit le schéma, je n'ai pas eu de tendresse de mes parents, je suis pas quelqu'un de tendre, pendant mes 20 ans de mariage, je n'ai pas donné de tendresse, et là, bizarrement, avec cet homme-là, pouf, il y a tout qui s'ouvre, quoi. Je suis très tendre, je suis très à l'écoute, et je suis très dans la générosité, quoi.
En trois mots, qu'est-ce que vous retenez de cette période-là avec lui? Qu'est-ce qui vous a le plus séduite? Qu'est-ce à ce moment-là?
Passion, fusion, partage.
Chapitre 3. La souffrance. Un homme cultivé, un homme tendre, une entente quasi parfaite. Au début, vous vous voyez en alternance avec la garde de vos enfants, et puis vous vous installez, j'imagine. Qu'est-ce qui commence à dérailler et quand?
Et en fait, j'apprends très tôt qu'il a une problématique alcoolique. Que sur la période où en fait j'ai fait sa connaissance, il était en post-cure, donc il avait fait un gros travail de sevrage, que ce problème il l'a depuis de très nombreuses années, et qu'en plus derrière il y a une problématique, il est bipolaire, mais ça on l'apprendra qu'après, pardon. Et donc c'est quelqu'un de très fragilisé, qui a des grandes souffrances en lui. Et quand il est face à des émotions très fortes ou des choses qu'il n'arrive pas à gérer psychologiquement, il se noie dans l'alcool et la bouteille.
Et ça, vous vous en rendez pas compte au début?
Non.
Du tout.
Il m'en parle pas.
À aucun moment vous vous dites, parce que vous avez été au restaurant, vous avez été...
Non, buvez de l'eau.
Vous ne voyez pas de problème particulier.
Il m'en a parlé un peu, je crois, à l'époque, mais il m'a assuré que tout était terminé, il m'a expliqué qu'il avait été hospitalisé, tout ça. Bon, sans rentrer dans les détails, parce que je pense que si j'avais su tout ce que je sais aujourd'hui, je crois que j'aurais pris mes jambes à mon cou quand même. Et le truc, c'est que au début, ça se passe bien, et puis après... la vie reprend son cours, en tout cas pour lui, et il s'adonne à des alcoolisations. Alors, c'est période.
Là, vous étiez chez vous? Vous
alors,
viviez ensemble
alors,
à ce moment-là ou pas?
À ce moment-là, c'est lui qui s'installe chez moi dans l'Indre.
Oui.
Donc voilà. Et là, je suis un peu déroutée. J'essaye de le comprendre. J'essaye de comprendre quelle est vraiment l'origine de la problématique. Et je suis quelqu'un comme ça. Et puis, je suis amoureuse aussi. Je crois que c'est ce qui a fait que je me dis, il n'a pas eu les bonnes cartes en main ou il n'a pas été aidé comme il fallait. Moi, je vais arriver, moi, avec mon petit cheval blanc. Puis, je vais y arriver à l'aider.
Vous allez le sauver.
Voilà. J'ai tout essayé, mais rien n'a marché. C'est, au bout de 7 ans de vie commune, vous voyez, quand je suis sortie de là, je me suis dit au départ que j'allais l'attirer dans mon monde et qu'il s'en sortirait. Et quand je suis partie au bout de 7 ans, c'est lui qui m'avait entraînée dans son monde de ténèbres.
Alors, là, vous avez fait un sacré raccourci.
Ouais.
7 ans, ça passe comme de rien. Et pourtant...
ça a été très long.
Pourtant, non. À partir de quel moment, en termes de durée, vous vous êtes rendu compte qu'il y avait un problème avec l'alcool? à partir de votre rencontre?
Dès qu'il s'est installé chez moi. Donc, dès qu'il y a eu les problématiques, j'ai essayé d'énormes... Alors voilà, le dialogue, la conversation. Je me suis rapprochée de ses parents pour comprendre ce qui se passait. J'ai beaucoup lu, je me suis beaucoup renseignée pour savoir ce qu'on pouvait lui proposer en termes de thérapeutique, en termes d'aide. Il a joué le jeu, hein. Je veux dire, parce que je pense que... Alors, il n'y a que lui qui peut le dire, mais... Et encore que, vu le profil après, parce que voilà, son profil a été tiré après, et je sais à qui j'ai eu affaire. Mais je pense qu'il était amoureux, il avait envie de faire des efforts, puis il avait envie de se sortir de ça. Donc,
c'est important ça, ça veut dire, vous dites qu'il était amoureux. Donc il y avait un partage, quelle que soit la situation que vous étiez en train de vivre, il y avait un partage.
Ça, et je le voyais tellement désolé après ces périodes où vraiment il était... pas dans la demande du pardon, mais presque, mais tellement désolé d'en arriver à ça. Je sentais vraiment une souffrance de vivre cette maladie, en tout cas. Et bon, j'ai tout fait pour l'accompagner. Seulement, du rôle de au début que vous avez de personne aimante et protectrice et qui essaye d'apporter des clés, mais après, vous à ses yeux à lui, vous prenez une autre image, celle de la police, hein, celle du shérif, et là, ça se complique. Parce que là, on rentre dans la violence.
Alors là, on va rentrer dans l'étape la plus douloureuse, en tout cas. Toujours en termes de calendrier, je dirais, c'est combien de temps? Les choses, elles mettent combien de temps à se poser?
Écoutez, c'est simple, je l'ai connu en 2012. C'est quelqu'un qui a eu donc pas mal de relations et qui n'a jamais réussi à avoir d'enfant. Donc il me demande vraiment, mais très intensément, d'avoir un enfant. En plus, en m'opposant que c'est la chose qui va le sortir de ses problèmes. C'est-à-dire qu'une fois qu'il aura un enfant, ce sera la clé. Vraiment, il voyait comme ça. J'étais pas trop décidée, parce que moi, j'avais eu 3 enfants d'un premier mariage, et pour moi, c'était fini. Donc, j'ai mis beaucoup de temps à me décider. Et c'est quelque chose qui était très récurrent, qui revenait très souvent dans les conversations. Et vraiment, je sentais que c'était un désir, mais vraiment absolu. Donc, j'accède à cette demande. Je mets quelques mois à tomber enceinte et la première violence vient, je suis enceinte de 5 mois. Il rentre à la maison, il est complètement saoul et là il me donne un gros coup de tête, ce qu'on appelle communément un coup de boule, qui me fait tomber à la renverse. Et il éprouve par contre là aucun remords et il est prêt à cogner.
Pour quelle raison ?
Parce qu'il est, parce qu'il a bu, parce qu'il supporte rien, parce qu'il a les nerfs à fleur de peau, parce que tous les nerfs, la maison, les enfants, tout, là, de toute façon, moi, cet homme-là, quand il n'avait pas bu, il avait, enfin, voilà, moi, je l'appelais souvent Dr. Jekyll et Mr. Hyde, c'est-à-dire que c'était quelqu'un de tendre, aimant et gentil quand il n'avait pas bu, et quand il avait bu, je ne le reconnaissais pas.
Vous viviez avec lui, oui, et avec vos enfants.
Oui.
Quand vous avez su qu'il était alcoolique, ça vous avait pas fait peur à gérer avec vos enfants?
Non, parce que encore une fois, je suis tellement dans la dynamique et j'aime gérer un milliard de choses en même temps que chaque chose était gérée séparément. Après, quand il y a eu les premiers épisodes, ils s'en prenaient pas aux enfants. Donc voilà. Après, les choses se sont compliquées, hein, vraiment énormément. Moi, j'ai un parcours avec cet homme. Mes enfants en ont un autre. Et aujourd'hui, il a encore du mal à accepter ma part de responsabilité là-dedans, hein, vraiment.
Alors, on va en parler de ce parcours, mais vous le dites, un soir, vous êtes enceinte de 5 mois, il rentre, premier coup de boule. Quelle est votre réaction? À quoi vous pensez à ce moment-là?
Là, moi, les bras m'en tombent. Je n'accepte pas cette violence. Alors, il y avait déjà une forme de violence psychologique, parce que quand il avait bu, C'était quelqu'un qui s'en prenait à moi, qui me dénigrait, que ce soit sur mon physique, ma façon d'être, mes amis, mon travail. Alors moi, j'ai une confiance. Alors là, mon éducation a énormément joué, vous voyez, pour le coup. C'est que mes parents ont fait de moi quelqu'un assez sûr d'elle, assez forte, avec des bases solides. Donc moi, tout ce qu'ils me disaient, ça me sort, enfin, voilà, ça rentrait par une oreille, ça sortait par l'autre. Je sais ce que je suis, hein. Tu peux dire ce que tu veux, t'arriveras pas à m'atteindre. Et puis j'avais cette force, parce que j'avais une vie sociale riche, j'avais mes amis, j'avais tout ça. La violence physique, quand elle arrive, non, je refuse d'accepter ça. Mais en même temps, je suis enceinte de 5 mois. Donc, une vraie question dans ma tête. Et là, il me dit quelque chose de terrible. Fais-toi avorter, je veux pas du gosse. Waouh, là, je me dis, là, on est en train de toucher le fond. Il décide d'aller chez ses parents 2-3 jours. Il revient et il promet que c'est fini, quoi. Qu'il a pris conscience de ses actes et que c'est fini. Mais c'est que le début, en fait.
Et c'est vous croyez?
Sur l'instant, oui, parce que je porte son bébé. Donc, je me dis que il a tant travaillé pour qu'on ait... Enfin, voilà, il m'a travaillé au corps pour qu'on ait cet enfant. Pour lui, ça représente tellement de promesses et d'ouverture sur un horizon plus ensoleillé que, ouais, je veux le croire.
Vous en avez parlé ? La première violence, tout de suite, le premier jour ou le lendemain, je sais pas, vous téléphonez à vos parents, à vos sœurs.
Alors mes
vos
parents
frères.
Sont décédés, mais j'avais 25 ans quand ma maman est partie, mon papa a D'accord. suivi 6 ans après. Non, parce que il y a un travail, et ça je voilà, il y a tout un travail en fait insidieux qui s'est fait en parallèle. C'est que dans ma vie avec lui, petit à petit, il a commencé à faire sentir à mes amis qu'ils n'étaient plus les bienvenus à la maison. Donc mes amis ont commencé à espacer les visites jusqu'à mes meilleurs amis. Femme. Et vu qu'il y avait sa problématique, je me concentre sur lui, sur ça, et je me rends pas compte. L'éloignement, finalement, je le souhaite un peu aussi, et je me rends pas compte de ça. Et après, il me demande de venir le rejoindre ici en Haute-Vienne, et là, c'est la porte qui se referme sur une geôle. Hein. C'est-à-dire que le jour où je suis arrivée dans sa maison, la porte se referme, et là, pendant 5 ans, je ne verrai plus personne de ma famille, plus aucun de mes amis, juste mes enfants et lui.
Pourquoi ?
Parce qu'il fait le vide.
Oui, mais pourquoi vous l'acceptez ?
Je sais pas, j'ai travaillé, si vous saviez, dessus. Ben voilà, que ce soit avec France Victime, bon, en surface, et beaucoup avec l'unité de victimologie. Je sais pas, c'est... Un besoin de se rendre utile, la peur de l'abandon, je sais pas, il y a eu tout un travail de fait psychologiquement qui m'a isolée à lui, je l'ai pas vu venir, et après plus vous vous isolez et moins vous vous sentez en confiance, et plus moins vous ouvrez les portes et moins vous arrivez à les ouvrir, et je suis arrivée à un moment où... y a une étincelle de réveil, et mes enfants aussi, hein, qui me disent, vous voyez, j'ai plus que quelques coups de fil très occasionnels une fois par an avec une de mes tantes, et elles sentent que j'ai changé, qu'il y a des choses qui se passent, que je me suis un peu éteinte aussi. Et en fait, ce jour-là, elle me demande une photo de moi, et je lui envoie, et là, elle me dit, waouh, t'es en train de mourir? Et c'est ça, je crois, qui me donne le réveil et la conscience de tout ce que je vis.
Quelle image vous aviez de vous à cette époque-là? J'essaie d'imaginer les journées.
C'était quelqu'un qui, je vous dis, il vous insulte, il vous dénigre, vous n'êtes rien, vous êtes une bonne à rien. Vous avez fait le ménage dans la maison, il arrive, il passe le doigt sur le meuble, si c'est pas assez propre pour lui, il vous renverse les poubelles par terre en vous traitant comme un chien. Il vous dit que votre travail n'est pas un travail, que vos amis sont de la sous-merde, que votre ex-mari est de la sous-merde, que vos enfants sont de la merde. Et moi qui avais toute cette confiance, cette dynamique, ces sourires, j'ai perdu mon sourire, j'ai perdu mes amis, j'ai perdu ma famille. La seule chose que j'ai réussi à garder, c'est mon travail, et encore heureux, je pense que c'était ma seule porte de sortie, mes enfants. Mais je me sens laide, je me sens pas intelligente, parce qu'il me dit que je suis un culte, bête, à bouffer du foin, et que je n'ai rien à apporter. Et non, sans plus rien.
Vous le dites, vous avez gardé votre travail.
Ouais,
vous connaissez des gens au travail.
Ouais.
Vous n'en parlez pas?
Personne ne sait.
Pourquoi?
On a honte. Alors c'est bizarre, hein. Mais dans ce schéma-là, lui ne se sent jamais coupable. Et moi, je me sens coupable de tout. Parce que quand il boit, il vous dit c'est de ta faute. T'as pas fait ci, t'as pas fait ça, ou tu m'as ennuyé, ou tu m'as embêté à me parler, ou fallait pas aborder ça maintenant, c'est de ta faute. Vous finissez par le croire, hein, quelqu'un qui vous répète ça.
La porte qui se referme, c'est la première fois où vous acceptez d'être traité comme ça, et après vous réouvrez plus la porte.
On se noie dans un truc, on s'en rend pas compte, et ouais, la porte se ferme. Et de temps en temps, hein, il y a eu des moments, je suis partie trois fois, hein, enfin la troisième et la dernière, c'était la définitive, mais il y a des moments de soubresaut où on se dit oh, c'est pas possible, c'est plus moi, je peux pas vivre ça, je peux pas poser ça à mes enfants. Puis il y a la violence physique, hein, parce que là on n'en parle pas, mais il y a des gros épisodes de violence.
C'est quoi la violence physique?
Bah, c'est un jour, il se met à califourchon sur moi et il commence à me taper les côtes et très violemment et d'habitude quand il me tape je me tais pour pas affoler mes enfants, et ce jour-là la douleur elle est si terrible que j'échappe à un hurlement et mon fils arrive et il me voit au sol, cloué au sol à plus pouvoir bouger, et je vois dans les yeux c'est dur là. Je vois dans les yeux de mon fils une peur incommensurable, et puis une incompréhension, et puis une envie de se sauver, quoi. Et malgré ça, bah, vous savez plus respirer, et vous pouvez pas aller chez le médecin. Parce que, vous voyez, le lendemain, tant bien que mal, je me suis levée pour aller chez le médecin, tellement j'avais mal au côtes, j'arrivais plus, j'étais pliée en deux, j'arrivais plus à respirer. Et il m'appelle, il me dit, si tu vas chez le médecin, je t'attends. Je t'attends et tu vas avoir un peu plus mal. Donc vous n'allez pas chez le médecin et vous restez un mois à avoir du mal à respirer et à continuer vos tâches et de répondre à chaque exigence de monsieur. Parce qu'il devient de plus en plus exigeant. C'est un roi en ce domaine et vous êtes devenu son esclave à tout point de vue.
Chapitre 4. L'heure des choix. Après avoir essayé de comprendre sa souffrance, après avoir accepté tout ce qu'il vous a fait subir, un jour, vous décidez que ça suffit. Comment est venue cette idée et qu'est-ce qui vous a donné la force à un moment donné de dire maintenant, c'est bon, j'arrête? Parce que j'arrête, j'imagine que vous avez eu 10 fois, 100 fois, cette idée qui vous est passée par la tête, ou pas d'ailleurs, et puis un jour vous avez dit c'est fini.
Une fois j'étais partie, il est venu me retrouver, il avait décidé que je devais pas partir, donc il a réussi à me réattirer dans ses filets.
Comment?
En revenant à la maison, en me faisant 10 000 promesses, en me disant que j'étais la femme de sa vie, qu'il pouvait pas vivre sans moi, qu'il voulait qu'on élève notre fille ensemble, qu'il avait compris sa problématique, qu'il allait faire tout ce qu'il fallait. Et je reviens et ça recommence. Et très vite, hein, là par contre, hein, parce que je suis partie presque 1 an et demi, 2 ans. Et quand je reviens, tout de suite, tout ça se remet en place. L'alcool, la violence verbale, physique. Et là, je comprends que non, ça va pas pouvoir le faire. Et bizarrement, vous voyez, je prends pas de décision, c'est mon corps qui le prend à la place. C'est-à-dire que j'arrête de parler, j'arrête de manger. Et je commence à fondre à vue d'œil. Je dors plus la nuit et je m'enfonce, hein. Et en fait, c'est quelqu'un donc qui aime beaucoup bouger. Alors entre temps, comme je vous ai expliqué, j'ai ma tante qui me voit en photo, qui commence à s'alerter, qui commence à avoir vraiment beaucoup d'inquiétude sur moi et qui me dit fais quelque chose. Je sais pas ce qui se passe dans ta vie, mais fais quelque chose. Et en fait, il me propose de partir un week-end, comme on a l'habitude de le faire, parce qu'on est voilà très très globe-trotteur. Donc je pars en week-end avec lui et là il me demande en mariage. Et moi je suis au bout en fait. Je suis au bout de ce que je peux supporter, j'en peux plus. Et là, je le regarde et j'ai fait non, mais... Et là, c'est à ce moment-là, je crois que la décision se prend. J'ai dit, t'as pas compris, c'est fini, je peux plus. Je peux plus. Et donc, on rentre le dimanche soir et il prend la fuite tout de suite. C'est-à-dire qu'il va s'enfermer dans une chambre d'hôtel à boire, à me harceler jour et nuit de messages, d'insultes, mais des plus innommables. Et je sais qu'il a rendez-vous chez le dentiste, je sais plus, je crois que c'est le mercredi ou le jeudi. Et moi, je suis en, voilà, je travaille sur le secteur et en passant en voiture, je vois sa voiture. Donc, je décide de m'arrêter pour voir s'il va bien parce que je sais quand même qu'il est conduit en état d'ébriété, que c'est un vrai danger sur la route, qu'il a eu plusieurs fois des retraits de permis et que, vous voyez, il y a eu des fois, bah, il s'est cartonné en voiture avec 2,71 g d'alcool et il conduit. Il peut tuer des familles quand même en face. Et ça, apparemment, enfin, je sais pas, c'est pas un problème de sécurité publique, ça, apparemment. Hein. Et donc je m'arrête et en fait il est alcoolisé, il me demande tout de suite de monter à côté de lui dans la voiture. Il y a des bières de, enfin il y a des bouteilles de bière, de whisky. Enfin la voiture c'est un vrai supermarché. Donc je mets tout ça, il y a un conteneur, je mets le maximum dans la poubelle. Je m'assois à côté de lui et j'essaye de le raisonner pour qu'au moins il rentre chez sa maman, qu'il arrête de conduire en état d'ébriété parce que c'est quelque chose moi qui m'angoisse énormément. Et il sort de la voiture, moi j'ai la portière ouverte, et il me dit je vais uriner. Et en fait, au moment où il va uriner, il se tourne, et là je vois son regard que ça va pas bien se passer du tout pour moi. Et là, il se rue tel un rugbyman sur moi, et il commence à m'arracher les cheveux, à me taper, à me donner des coups de poing. Et je suis coincée dans cet habitacle de voiture, et je n'arrive pas à en sortir. Là, je vous avoue que j'ai, de toute façon, on me l'a dit, mais j'ai un gros trauma parce que je vois ces coups arriver sur ma tête, sur mes cuisses, sur mes bras. Mais la seule chose que je me souviens, c'est comment tu vas faire pour sortir de cette voiture, et si tu n'en sors pas, tu vas finir par mourir. Et j'ai un instinct, je tourne mes jambes sur le côté de la portière, j'arrive à lui donner un grand coup de pied et j'ai mon portable dans ma poche et je me mets à courir. Je sais que la gendarmerie est pas loin, j'appelle la gendarmerie, je leur explique tant bien que mal ce qui arrive et grande chance pour moi, ils arrivent tout de suite, hein, par contre dans la minute. Donc lui il est conduit au poste, hein, il est mis en dégrisement, il faudra à peu près 36 heures avant qu'il soit écouté, tellement il est en état d'ébriété. Et moi, bah, commence la spirale infernale des auditions, procès verbal, j'ai à peu près 6 heures d'audition. Alors cette chose-là, je l'avais vécue 2 ans avant, mais 2 ans avant, j'étais revenue. Et là, au moment où le gendarme me dit vous partez, vous le quittez, J'ai eu un temps d'hésitation parce que je sais qu'il est à côté, j'ai notre fille en vue, et là je dis oui, là je le quitte. Là je sais que je peux plus. Mon corps a arrêté de pouvoir subir tout ça, il dit stop, et mon mental dit stop, je peux plus, je suis au bout. Si j'y retourne, je sais que c'est ma mort en fait.
Comment ça se passe ce moment avec la police ? Parce que vous dites, vous y avez déjà été 2 ans avant.
Ouais, c'est la gendarmerie.
La gendarmerie. Ouais. Comment ils vous accueillent ?
Avec le recul, c'est... Alors le gendarme à qui j'ai eu affaire a été très, très dans l'écoute, très dans la patience. Et... Ouais, il a pris le temps de faire les choses, m'a emmené voir un médecin légiste, enfin un médecin, pardon, le médecin du coin, hein, parce que on est en zone rurale, pour faire un constat, mais le problème c'est que mon conjoint m'avait donné des coups, mais les hématomes arrivent pas en une demi-heure. Hein. Alors vous voyez, ça c'est un truc que je veux alerter vraiment, c'est-à-dire que, bah, vous voyez, les hématomes arrivent pas, le médecin traitant dit donc aux gendarmes, faut attendre quelques heures pour que les hématomes arrivent, quand là on peut rien constater, on a que les dires de madame, donc le gendarme me dit sur l'instant, bah, écoutez, dès que les hématomes seront là, quand vous serez de retour chez vous, prenez les photos, vous me les envoyez, et puis on joindra les pièces au dossier. Le lendemain, le gendarme m'appelle, il me dit non, pas besoin d'envoyer les photos, monsieur a admis les faits. Ouais, sauf que 2 ans plus tard, monsieur dit qu'il n'a rien fait et que ben, y a pas de photos. Donc, voyez, votre parole peut être mise en question. Donc ça, c'est la première erreur, hein, quand même. Je tiens à le spécifier. La deuxième erreur, c'est que malgré... une récidive, et pas qu'avec moi, puisque j'ai appris par la suite que toutes ses compagnes, il les avait violentées, physiquement et moralement. Eh bien, il n'y a pas d'ordonnance de protection. On ne met pas sous protection. Il est libre comme l'air. Et ça, je tiens vraiment à alerter là-dessus, parce que mon avocat, et merci à lui, a saisi le juge tout de suite. Et j'ai eu vraiment beaucoup de chance. Sous 15 jours, il y a cette ordonnance de protection qui a été mise en place. Et je tiens à le préciser aussi, Parce que vous voyez, j'ai un ex-conjoint qui, malgré une ordonnance de protection, une interdiction de rentrer en contact avec moi, le fait. Et ça fait 2 ans que ça dure. Et il y a une multitude de plaintes et il est toujours libre de faire ce qu'il veut et de me faire subir ce qu'il veut.
C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il fait ?
Mais la première année, c'est de téléphoner pour soi-disant parler à sa fille. Donc, bon, il n'a plus d'autorité parentale, hein, faut le savoir. Le JAF met tout de suite une mesure de protection sur ma fille et moi-même. Donc, là, aujourd'hui, il voit sa fille en structure fermée au trait d'union de Limoges à raison de 2 heures tous les 15 jours. Il téléphone pour soi-disant parler à sa fille, qui a à l'époque 4 ans. Et quand il a sa fille au téléphone, bah, il lui dit, par exemple, « Tu diras à ta pute de mère que je l'encule. » Vous voyez ? Alors, c'est quelqu'un qui est cultivé, qui a de l'éducation. Bah, quand vous entendez ça, déjà, alors vous, vous êtes habitué, mais votre petite fille de 4 ans ne comprend pas trop, quoi. Et donc on fait ce qu'il faut pour qu'elle ait pas affaire à ça, ma fille. Et malgré ça, il continue. Donc ben, très vite, les appels, on arrête. Hein. Le juge décide qu'il ne doit plus rentrer en contact avec moi non plus par téléphone. Et c'est les SMS. Et à chaque fois, je suppose qu'il s'alcoolise, ben, je reçois des SMS avec le même genre de nom d'oiseau. Et puis des longues diatribes sur ce que je vaux, ce que je ne vaux pas. Donc voilà.
Il n'y a pas moyen de l'éloigner plus que ça.
Ben écoutez, moi je pose la question à tout le monde et aujourd'hui, après 6 plaintes qui finissent tous à l'eau, on convoque monsieur, on le rappelle à l'ordre, on lui dit d'arrêter. Là au mois de juin, il a eu quand même une mesure de CRPC.
C'est quoi CRPC ? Je ne sais pas ce que c'est.
Alors CRPC, c'est compliqué à expliquer. C'est-à-dire qu'au lieu de passer en correctionnel, on va dire que c'est une structure un peu plus douce où on s'accorde à proposer une peine à monsieur s'il accepte, tout se passe bien. Donc pour tout ce harcèlement pendant un an, plus d'un an et demi, où il a vraiment interféré sur ma vie privée, sur ma vie de famille, où il m'a harcelé, on lui donne 600 euros d'amende et 3 mois de prison avec sursis avec une obligation de soins. Voilà. Et bien aujourd'hui, il continue.
Il continue quand même.
Il continue. Il y a un mois de ça, il est à 400 mètres de mon domicile. Il continue de m'envoyer des SMS et surtout, il continue de s'ingérer dans ma vie. Alors, il a une forme d'intelligence. Il ne peut pas rentrer en contact avec moi. J'ai un nouveau conjoint, un nouveau compagnon avec lequel ma fille voilà, s'entend parfaitement. Il va sur le lieu de travail de mon conjoint. Et il tient commerce. Il arrive en état alcoolisé. Il demande mon conjoint. Et il lui tient des propos à mon encontre des plus défavorables. Donc voilà. Donc je reporte plainte. Et on attend.
Dans quel état d'esprit vous êtes aujourd'hui par rapport à ce qui s'est passé ? Est-ce que vous avez encore peur ?
Alors peur aujourd'hui, j'ai plus peur. Mais ce qui est à préciser, c'est que... Parce qu'il y a la période, hein, quand je pars après ces violences, je suis détruite. Je suis plus personne. Je crois plus en moi. Je me réveille sur tout ce que j'ai vécu, sur tout ce que j'ai perdu, sur ce que mes enfants ont enduré. Et là, waouh. Et c'est des semaines et des semaines sans dormir, c'est réapprendre un peu à manger parce que vous voyez que vous vraiment vous affolez vos enfants et vous en rajoutez. Vous vous faites prendre en charge. Vous voyez, j'ai téléphoné à France Victime, qui a été le premier relais qui ben voilà, parce que la plus grande peur, en fait, quand on part de là, parce qu'il vous fait des menaces sur vos enfants, sur plein de choses. Et vous avez, alors le 3919, hein, je tiens à le dire, hein, surtout n'appelez pas, ça sert à rien. Parce que moi, j'essaie pendant 8 jours, hein, on tombe que sur des répondeurs, et au bout de 8 jours, vous tombez sur quelqu'un qui vous dit, oh ben non, on n'a pas le temps, tous nos postes sont occupés. Donc, ce qu'il y a, c'est que quand on vit la violence, il y a plein de choses qui sont incohérentes. C'est-à-dire, par exemple, la première chose qu'on vous dit, c'est prenez vos enfants, allez à l'hôtel. Mais qui peut accepter ça ? On vient de se faire cogner. Il faut en plus que ce soit nous qui quittions le domicile conjugal, qu'il faut que nos enfants emmènent leur nanin sous le bras et qu'ils ne peuvent pas rester dans leur chambre, dans leur maison. C'est à nous de partir alors que c'est lui qui cogne. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'anormal dans ça ? Moi, j'ai refusé de partir. Il avait sa maman qui habitait pas loin. Je me suis imposée. J'ai dit, va dormir chez sa mère. Et hors de question que mes enfants aient encore à subir ça. Sur la semaine, j'ai trouvé un logement, j'ai déménagé. Je dirais que j'ai eu de la chance parce que financièrement, je pouvais faire face. Il y a combien de femmes qui peuvent pas faire face? Il y a plein de choses comme ça. Et il faut se reconstruire derrière. Donc bon, France Victime, c'est la première piste. Après, j'ai téléphoné au CDDIF pour avoir les réponses au niveau légal, parce que j'étais très inquiète sur ses possibilités. Il voulait sa fille, vous voyez. Il voulait avoir un droit de garde sur sa fille classique, alors que c'est quelqu'un qui est très dangereux. Je lui ai jamais laissé la responsabilité de ma fille, puisque c'était quelqu'un de trop dangereux, qui avait des comportements à risque. Quand il en est alcoolisé, ou il prend son véhicule, ou même à la maison, il fait des chutes parce qu'il ne tient plus debout. Donc voilà. Et après tout ça, mais une fois qu'on a les premières réponses, on essaye de se reconstruire et on se dirige vers des professionnels, quoi. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait parce que je voulais revivre, renaître.
Chapitre 5. La reconstruction. Une fois la décision prise de partir, et puis avec tous les aléas qu'il y a derrière, il faut recommencer une nouvelle vie, continuer à vivre. Déjà, est-ce que vous avez pu vous refaire le réseau amical, familial qui avait été gommé par cette histoire?
C'est la première chose que j'ai fait. J'ai appelé ma sœur. C'était vraiment une nécessité. Et puis, on prend sur soi parce qu'on a honte, hein, vraiment de ce qu'on a vécu. Et on commence à rappeler, en tout cas moi, les amis qui avaient pu être les plus proches de moi. Et là, les bras... Ils ont bien compris qu'il y avait des choses qui se passaient. La problématique alcoolique, ils l'avaient tout de suite ciblée, voilà. Après, l'enfer intérieur que je vivais, ils en avaient aucune idée. Et ouais, la grosse surprise. Mais les portes se réouvrent. Et ça, ça encourage. Et ça, ça réchauffe le cœur. Et ouais, ça donne le courage de remettre le pied à l'étrier. Parce que vraiment, on n'est plus rien. On n'est plus que l'ombre de soi-même, on ne sent plus aucun courage. Et surtout, c'est qu'il vous a tellement dit que sans lui, vous n'étiez plus rien, vous arriveriez à rien faire, que vous avez fini par le croire. Et moi, je vous assure que pendant 3 semaines, j'ai pédalé dans la semoule à rien savoir faire. Après, il y a un déclenchement, et puis on se dit, allez, on repart. Ça va peut-être vous paraître bizarre, mais je repars au combat. Et je pars au combat. Et vraiment, c'est-à-dire que j'apprends dans mon parcours qu'il a un profil de pervers narcissique. Qu'est-ce que c'est cette chose? Je ne sais pas. Donc j'essaye de comprendre, je suis quelqu'un de très curieux encore une fois. Et quand je comprends ce que c'est un pervers narcissique, tout se met en place. Et là, je comprends tout ce qui m'est arrivé dans ma vie. Et donc je constitue le dossier pour l'avocat et je vais faire un gros travail de recherche sur toutes les femmes qui ont partagé sa vie. Et j'apprends énormément de choses parce qu'on m'alerte, hein, on me dit « Monsieur va se présenter au tribunal en se faisant passer pour la victime et vous la coupable et il n'aura rien fait de mal ». C'est exactement ce qui s'est passé, hein. Je tiens à le préciser. Donc j'ai bien fait de travailler sur ce dossier et puis après je m'occupe de moi. Parce qu'une fois que vous avez fini ça, c'est pareil, il y a un truc qui se termine et il vous faut absolument quelque chose derrière. Parce que surtout, la priorité, c'est de s'occuper l'esprit pour ne surtout plus repenser à tous ces moments-là. Et donc, j'ai fait plusieurs choses. Hein. J'ai fait un coaching pour aller retrouver... Vous voyez, vous m'avez fait beaucoup sourire au début de votre interview. Qui vous étiez quand vous étiez petite? Je suis allée rechercher la Nathalie quand elle était petite parce que je voulais retrouver qui j'étais. Cette fille insouciante, souriante, pleine d'amour, généreuse, sociable. Je n'étais plus ça. J'avais perdu ça. Je n'étais plus la Nathalie que originale. Donc je suis allée la rechercher, ça. Avec beaucoup de pleurs, hein. Mais je suis allée la rechercher. Et quand j'ai fait tout ce travail-là, je suis arrivée assez rapidement à une reprise de confiance. Mon travail, tout ça, je l'ai fait différemment. J'ai eu la sollicitude des gens parce que, vous voyez, vous disiez tout à l'heure, Je ne disais rien à personne, mais en fait, dans les campagnes, tout se sait très vite. Donc, les gens ont su très vite. Et alors, ça, c'est gênant parce qu'ils viennent vous voir en vous témoignant une certaine gentillesse. Vous êtes gêné de ça, et en même temps, vous le prenez quand même, parce que ça fait du bien.
Il y a quelque chose qui est assez surprenant dans ce que vous dites, c'est qu'on n'entend jamais vos enfants. Avec quatre enfants, si j'ai bien suivi l'histoire, quatre enfants, on a un peu l'impression, à part une fois où vous nommez votre fils et puis vous parlez un peu de votre petite-fille, qu'ils sont à côté. Qu'est-ce que vous pensez que eux retiennent de cette histoire? Et une fois que l'histoire s'est terminée, est-ce que vous leur avez dit quelque chose? Est-ce qu'il y avait besoin de leur dire quelque chose? Parce que là, tel que vous me le racontez, ils ne sont pas là.
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que... je vais employer un mauvais mot, mais c'est débile. Hein. Mais tant qu'on vit ça, mes enfants s'enfermaient dans leur chambre quand il y avait des épisodes de violence. Et on évite d'en parler les lendemains. On essaye d'être présente, de compenser, d'essayer qu'ils voient le moins de choses possible. Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai dit, quand on est cogné, on évite de crier, on évite de pleurer, pour surtout pas qu'ils entendent. On a l'impression qu'on crée une porte, alors qu'elle n'est pas là, la porte. Mais je crois que c'est pour se rassurer soi-même. Une fois qu'on a quitté ça, là, il y a des choses qui se réveillent. Et là, on prend la mesure de la souffrance chez ces enfants. Et c'est la chose la plus compliquée, encore une fois. Ce sentiment de culpabilité vis-à-vis de ses enfants, c'est quelque chose dont on n'arrive pas à se séparer, mais très longtemps. Je dirais qu'aujourd'hui, 2 ans après, je n'enlève toujours pas ma notion de responsabilité, mais j'essaye de déculpabiliser un peu. Parce qu'on m'a fait comprendre que le monstre, c'était lui, c'était pas moi. Maintenant, j'ai accepté de rester dans ce schéma pour des mauvaises raisons, et je l'ai fait vivre à mes enfants. Sur mes 4 enfants, l'aîné n'était déjà plus là, parce qu'il était en études sup et il était parti. Il savait les problématiques, mais il n'a pas assisté. Mon deuxième a assisté, et mon troisième. Alors, chez mon troisième, c'est un peu catastrophique, parce que ça a fait naître... parce que c'est quelqu'un qui n'aimait pas les enfants non plus. Vous voyez, il voulait une fille, mais il n'aimait pas les enfants. Donc il dévalorisait beaucoup mon troisième, il l'insultait beaucoup, il était beaucoup dans la dévalorisation, dans une forme de dureté, et mon fils, ça commence seulement à aller mieux. C'est-à-dire que moi, quand je dis que j'ai une prise en charge pour moi, il y a une prise en charge pour moi, mais il y a eu une prise en charge aussi de mes enfants. Ça, c'était obligatoire. Mon fils se cloisonnait dans sa chambre et ne sortait jamais. Maintenant, il sort, il voit des amis, il s'ouvre au monde. Sur mon grand, mon deuxième grand qui est parti, lui, sa problématique, c'est quel homme je vais retrouver derrière? Qu'est-ce qui va m'arriver d'autre? Il faut absolument que j'arrive à me protéger, que j'ai tous les signaux d'alerte allumés. Et il a peur que ça se reproduise et que je retrouve ce type de profil d'homme. Surtout, il ne veut plus voir ça, quoi.
Justement. Vous l'avez dit, vous avez refait votre vie.
Oui. Ça n'a pas été sans mal. Hein.
Ouais. De quoi, à quoi on fait attention quand on refait sa vie?
Alors la problématique alcoolique, Là c'est illico presto. Hein. Vraiment le truc éliminatoire. Et puis, justement, d'avoir ciblé que mon ex-conjoint c'était un pervers narcissique, j'ai appris le fonctionnement, les méthodes de manipulation, tout ça, que je vivais et que je ne savais pas du tout. Et ça, on est beaucoup plus alerte et beaucoup plus ouvert. Alors après, le papa de ma fille qui était violent, j'ai fait une rencontre et il y avait des problématiques similaires. Ouais, à un moment, j'ai dit à la psy, c'est pas possible, je les attire, quoi. Et elle m'a dit, c'est souvent la problématique des gens solaires et des gens généreux, c'est qu'on attire à soi des personnes qui sont en manque de ça. Donc j'ai très vite mis un terme à cette relation. Et honnêtement, je me suis dit, c'est bon. En fait, avec tout ce que j'ai vécu, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez plus, mais il y a tellement de choses que vous ne voulez plus que vous vous dites, c'est pas possible, vous rencontrerez pas la personne qui vous convient. Et le destin fait que un jour, il y a quelqu'un de très solaire qui est rentré dans ma vie, mais vraiment. Et aujourd'hui, c'est le soleil de ma vie. Vraiment. Et je dirais que là, j'ai même pas été en alerte parce que tout a coulé de source tout de suite. C'est, je crois que vous, quand vous avez vécu quelque chose de vraiment anormal, quand quelque chose se présente limite normal, enfin, tout a son sens, quoi.
Vous pensez que ça vous arrivera plus jamais ?
Oh ouais, faut
est-ce
jamais
que vous
dire
êtes vacciné de ça ou pas ?
Faut jamais dire jamais, mais en tout cas, je serai très en alerte et je m'inflige. Le regret que je peux avoir aujourd'hui, c'est de. Je l'ai su. Je crois qu'on le sait, hein. C'est-à-dire que le père de ma fille, je crois que j'ai su très vite, mais j'ai pas voulu l'entendre. J'ai pas voulu le reconnaître. Et je me sentais, encore une fois, de toutes les cartes en main pour pouvoir l'aider. Je me suis surestimée sur mes possibilités de l'aider. Aujourd'hui, ce que j'ai retenu de tout ça, c'est qu'on ne peut pas aider quelqu'un qui n'a pas envie de s'en sortir lui-même. On a tous nos cartes et c'est à nous d'en faire quelque chose, quoi. Personne ne peut se substituer à quelqu'un d'autre, quoi.
Votre nouveau compagnon,
oui.
Est-ce que vous pensez que c'est facile pour lui de vivre avec une femme comme vous ?
Alors, ça a été... Alors, c'est facile et c'est compliqué. C'est compliqué, mon histoire. Je ne l'ai pas dit tout de suite parce que c'est compliqué. On a cette histoire en bagage comme une honte, vraiment. Parce que si vous saviez le nombre de fois où vous entendez des choses, si t'es resté, c'est que ça devait pas être si terrible. Il y a des clichés comme ça, les gens n'arrivent pas à comprendre pourquoi vous êtes resté. Et même au début, vous n'arrivez pas à l'expliquer. Il vous faut une longue thérapie. Moi, il m'a fallu un coaching. J'ai été prise en charge par l'unité de victimologie pendant 8 mois, à raison de 3 séances par semaine, pour arriver à comprendre pourquoi j'avais accepté ce genre de schéma. Donc je lui ai pas dit tout de suite. Quand je lui ai dit, il était scotché. Alors lui qui parle énormément, il savait même plus quoi répondre. Et je sais qu'à un moment il m'a fait, je n'arrive pas à faire l'association entre toi aujourd'hui, ta personnalité, et que tu me c'est comme si tu me racontais l'histoire d'une autre femme. C'est pas possible, c'est pas toi, quoi. Mais il m'a pas connue à cette époque et je suis redevenue la Nathalie originelle. Donc il a du mal à se faire à cette association-là, que j'ai pu vivre ça. Mais mon ex-conjoint lui rappelle bien qu'il existe, vu qu'il vient sur son lieu de travail. Donc voilà, quoi.
Vous disiez en tout début, votre maman, vous avez parlé des relations avec les garçons. Vous allez être amené à le faire. Qu'est-ce que vous allez lui dire ?
Ah, moi je veux qu'elle apprenne à se battre. C'est terrible, hein, peut-être ce que je dis, hein. Je veux qu'elle apprenne à se battre. C'est-à-dire que si un jour elle doit se prendre un coup, eh bien qu'elle ait la force de répondre. C'est peut-être pas la solution. Mais honnêtement, moi, au vu de ce que je vois, parce que ce monsieur-là, quand même, on lui a tout donné, hein, je veux dire, en possibilité. Il est toujours dans cette violence. Et au début, parfois, j'ai entendu des gens dire peut-être qu'il faudrait que lui-même subisse la violence pour qu'il l'arrête. Parce qu'il s'en prend toujours à des femmes. Il faut savoir que dans son parcours, par exemple, la compagne qui était juste avant moi, elle a des cervicales en titane parce qu'il lui a brisé les cervicales. Enfin, il faut regarder la réalité telle qu'elle est. C'est un homme plus que violent. Il vous brise. Il y en a une autre dans son parcours qui est devenue anorexique. Et ça fait 15 ans qu'elle l'a quitté, qui n'a jamais refait sa vie. Et dès que vous lui dites simplement le prénom de cet homme... Elle se met à trembler, à pleurer, et elle est dans un état traumatique 15 ans après. Donc c'est quoi la solution pour cet homme ? Je sais pas. Déjà qu'on commence à punir au niveau de la justice. Moi je pense qu'une bonne punition au niveau légal, ça peut peut-être faire réfléchir quand même. Après, vous voyez, avec France Victime, on en parle. Il y a des centres de réhabilitation. Comprendre pourquoi ils en sont là et travailler, moi, dessus, peut-être. Honnêtement, j'y crois pas.
Nathalie, on va terminer là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ?
de continuer sur mon chemin, mon nouveau chemin de vie, parce que tout va bien.
Eh bien, j'en suis ravi. Merci beaucoup pour ce témoignage, Nathalie.
Oui, c'est à toutes les femmes battues qui jusqu'à présent se sont tues, frappées à mort par un sale con. Que je dédie cette chanson.
Je tiens à adresser un immense remerciement à toutes les femmes qui ont eu le courage de témoigner dans ces podcasts. Ce podcast a été réalisé avec le soutien financier de Babychou Service Limoges et Harmonie Mutuelle. Il a été réalisé en partenariat et en collaboration avec la délégation départementale Femmes-Hommes de la préfecture de la Haute-Vienne, l'association France Victimes, l'association de réinsertion sociale du Limousin, la maison de protection des familles de la Haute-Vienne et l'association de prévention du psychotrauma chez l'enfant en Limousin. Et un grand merci à Yann Brisson et RTF Limoges pour le montage de l'ensemble de ces podcasts.